Le 5 décembre à midi, après un an et demi de voyage, j'ai atteint le pied de la passe. La lumière touchait la base des monts Sulaïman et le fortin de la douane afghane, noyé dans un bouquet de saules qui brillait comme écailles au soleil. Pas d'uniforme sur la route barrée par un léger portail de bois. Monté jusqu'au bureau, j'ai enjambé les chèvres étendues sur le seuil et passé la porte. Le poste sentait le thym, l'arnica et bourdonnait de guêpes. L'éclat bleu des revolvers accrochés contre le mur avait beaucoup de gaieté. Assis droit à une table derrière une bouteille d'encre violette, un officier me faisait face. Ses yeux bridés étaient clos. À chaque inspiration, j'entendais craquer le cuir neuf de son ceinturon. Il dormait. Sans doute un ouzbek de Bactriane, aussi étranger que moi, ici. J'ai laissé mon passeport sur la table et suis allé déjeuner. Je n'étais pas pressé. On ne l'est pas quand il s'agit de quitter un pays pareil. En donnant du sel aux chèvres, j'ai relu la dernière lettre de Thierry et de Flo. Ils s'étaient installés dans une vieille citadelle hollandaise au sud de Ceylan. Un autre monde. Ils ne seraient pas partis pour rien. Ensuite, j'ai fumé un narguilé en regardant la montagne. À côté d'elle, le poste, le drapeau noir, rouge, vert, le camion chargé d'enfants patanes, leurs longs fusils en travers des épaules, toutes les choses humaines paraissaient frustes, amenuisées, séparées par trop d'espace, comme dans ces dessins d'enfants où la proportion n'est pas respectée. La montagne, elle, ne se dépensait pas en gestes inutiles. Montait, se reposait, montait encore, avec des assises puissantes, des flancs larges, des parois biseautées comme un joyau. Sur les premières crêtes, les tours des maisons fortes patanes luisaient comme frottées d'huile. De hauts versants couleur chamois s'élevaient derrière elle et se brisaient en cirque d'ombre, où les aigles à la dérive disparaissaient en silence. Puis des pans de rocs noirs où les nuages s'accrochaient comme une laine. Au sommet, à 20 kilomètres de mon banc, des plateaux maigres et doux écumaient de soleil. L'air était d'une transparence extraordinaire. La voix portait, j'entendais des cris d'enfants très haut sur la vieille route des nomades et de légers éboulis sous le sabot de chèvres invisibles qui résonnaient dans toute la passe en écho cristallin. J'ai passé une bonne heure immobile, saoulé par ce paysage apollinien. Devant cette prodigieuse enclume de terre et de roc, le monde de l'anecdote était comme aboli. L'étendue de montagne, le ciel clair de décembre, la tiédeur de midi, le grésillement du narguilé et jusqu'au sou qui sonnait dans ma poche devenaient les éléments d'une pièce où j'étais venu, à travers bien des obstacles, tenir mon rôle à temps. Pérennité, transparence évidente du monde, appartenance paisible. Moi non plus, je ne sais comment dire, car, pour parler comme Plotin, une tangente est un contact qu'on ne peut ni concevoir ni formuler. Mais 10 ans de voyage n'auraient pas pu payer cela. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Repris mon passeport paraffé et quitté l'Afghanistan. Il m'en coûtait. Sur les deux versants du col, la route est bonne. Les jours de vent d'est, bien avant le sommet, le voyageur reçoit par bouffée l'odeur mûre et brûlée du continent indien.